cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 18 janvier 1996.
Parfaite scientifique. Pour Thomas d'Aquin, démonstration parfaite de l'existence de Dieu, de l'existence de l'être premier. Il n'y a qu'une démonstration imparfaite, c'est-à-dire au fond, on est tout le temps en recherche. Puisque si elle est imparfaite, elle ne satisfait pas pleinement l'intelligence. On remonte à la source. Je crois qu'il y a deux grandes démonstrations imparfaites a posteriori. Une au niveau de l'être, l'autre au niveau des idées. Ce que l'ontologisme bloque, puisque pour l'ontologisme, les idées existent. On passe tout de suite de l'idée qu'il y a un mode universel au singulier. L'ontologisme confond l'universel singulier, confond l'intelligibilité et l'existé. C'est ça l'ontologisme, qui est, je crois, profondément l'erreur fondamentale de la pensée dans le néoplatonisme. Saint Thomas, il revient constamment là-dessus, sans parler d'ontologisme. Le mot ontologisme est venu après, comme qualification. Mais Saint Thomas qualifie ça, la pensée néoplatonicienne, comme ne distinguant pas ce qui est connu et la manière dont on le connaît. Et c'est très, très bien dit ça, ce qui est connu et la manière dont on le connaît. Et je crois que c'est cela qui est le propre de l'ontologisme. La manière dont on le connaît sous un mode universel. Et ce qu'on connaît est une réalité singulière. Vos expériences portent toujours sur une réalité singulière. Ce qui nous permet d'avancer au point de vue intellectuel, c'est de connaître le singulier existant, c'est-à-dire la réalité existante qui existe sur le mode singulier. C'est cette réalité existante qui m'intéresse. J'en saisis les principes propres, puis je reviens à cette réalité et à la lumière du principe. Je saisis la propriété. La grande différence entre l'aristotélisme et le néoplatonisme, au point de vue des conclusions scientifiques, c'est que pour Platon, l'un est au-delà de l'être. Il faut toujours se rappeler ça. Pour Aristote, l'un est acolyte de l'être. Comment se fait-il que l'un puisse être supérieur à l'être? Platon n'est pas un imbécile, c'est un génie. Mais il peut, à certains points, dévier. Hegel est un génie, mais il peut, à certains points, dévier. La critique consiste à voir à quel moment il y a déviation. Si on cherche la vérité, on doit nécessairement essayer de comprendre les déviations d'intelligence. C'est pour ça que la critique est coexistante à la pensée métaphysique, à la pensée philosophique. Aristote ne sépare pas critique et métaphysique. été obligé de séparer critique de la métaphysique à cause de l'ontologisme. Mais en définitive, à cause de Kant, qui met la critique avant la métaphysique, avant la philosophie première. Donc à partir de Kant, on est obligé de séparer le point de vue métaphysique qui touche toujours la réalité existante. La métaphysique ne quitte pas la réalité existante. C'est le propre de la pensée philosophique. Le jugement d'existence est toujours en acte. Il n'y a pas de philosophie du possible.
Le raisonnement est un travail.
du singulier existant, de la réalité existante. L'homme travaillant, l'homme aimant. Ah, l'être premier se fait à travers une démonstration imparfaite. Je passe d'invisible à l'invisible. Dans l'induction. Et je me sers des principes pour découvrir une réalité ultime. Donc je passe de l'effet à la cause, que je ne saisis pas parfaitement. Et c'est Descartes, le premier, qui a voulu transformer la démonstration a posteriori par une démonstration modo-géométrico. Il ne faut pas oublier ça. Et à partir de là, il a remplacé la métaphysique par une apologétique. Descartes est le père de toutes les apologétiques qui ont fait beaucoup de mal. Parce que Jésus ne fait jamais d'apologétique. Et c'est Descartes le premier, puisqu'il a voulu justement transformer une démonstration imparfaite en une démonstration parfaite. Il a fait croire qu'on pouvait démontrer l'existence de Dieu comme on démontre en géométrie la propriété du triangle. Ben ça, je crois que c'est très très important. Ça, il y a là quelque chose très particulier et qui fait comprendre ce que c'est que Descartes. Et c'est quelque chose qui, de fait, a faussé l'intelligence dans sa recherche. Et dans sa recherche la plus importante, la découverte de l'existence de l'être premier. Et des quantités d'intelligence demeurent à ce niveau-là. Même la sacrée droite au point de vue politique, ça existe. Il y a des gens qui sont à droite, ils ne savent pas très bien ce que ça veut dire, mais ça ne veut rien. La sacrée droite est cartésienne. Comme on m'a dit qu'en Allemagne, la sacrée droite est kantienne. C'est le professeur de Fribourg, allemand, professeur de morale, qui m'a dit ça. Mais dit, en Allemagne, la droite est kantienne. Je suis kantien, parce que je suis de la droite. Un raisonnement philosophique est merveilleux, n'est-ce pas ? Enfin, c'est les apologètes. Ils sont toujours dans l'apologétique. Enfin, ils ne raisonnent pas. Ils sont dans l'apologétique. Et l'apologétique, c'est toujours des raisonnements rhétoriques. Ils veulent prouver des choses qu'on ne peut pas prouver. Ils veulent les prouver. Et c'est en ça que ça fait des colères énormes. Mais, oui, je crois que ce passage de Descartes qui veut prouver l'existence de Dieu modo-géométrico montre bien ce que représente l'ontologisme. Parce que on identifie une démonstration d'ordre du possible à la réalité existante. Tout possible existe. Et c'est le raisonnement constant, c'est très curieux, quand les gens commencent un tout petit peu à dévier cette première déviation. Vous avez promis de venir, je dis possible. Ah, vous l'avez promis. Mais non, je dis possible. On passe du possible à l'affirmation, comme si le possible existait, directement du fait même qu'on l'a émis. Et c'est ça le modo géométrico. La géométrie demeure dans le possible, on fait passer du possible à l'exister. Vous voyez, c'est ça l'ontologisme qui, je crois, est l'erreur fondamentale du néoplatonisme. problème de critique qu'il faut tout le temps se poser. Est-ce qu'il faut creuser ça pour avancer? Bon, alors, comprenons. La philosophie première cherche les principes propres de l'être. Substance, acte. Dans la lumière de la substance, je dis tout ce qui est en tant qu'il est, est un. C'est-à-dire tout ce qui est substantiellement est un. Puisque ce qui est non substantiellement n'est pas parfaitement être, puisqu'il est second. Tous les accidents sont seconds. Seule la substance est première dans l'ordre de la détermination. Dans l'ordre de l'eidos, de la détermination, de la forme. Tous les accidents sont relatifs à un sujet. Du fait même qu'ils sont relatifs à un sujet, ils ne sont pas un. Quand vous êtes relatif à quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas un. La relation, c'est toujours deux. Il y a deux termes dans la relation. Soit quand vous suivez quelqu'un, vous n'êtes pas un, vous êtes relatif. Tous les accidents sont relatifs. Donc, ils ne sont pas un, ils sont multiples. Seul ce qui est substantiel est un. À partir de là, je puis dire que l'un est l'acolyte de ce qui est en tant qu'il est. Donc l'un n'est plus au-delà de l'être. Il est au contraire relatif à l'être. Comment se fait-il que Platon peut dire que l'un est au-dessus de l'être? C'est important de comprendre ça. Comment se fait-il ça? Comment peut-il affirmer que l'un est au-dessus de l'être? Pourquoi? Parce que l'un est intelligible. C'est le propre de l'être, ce que mon intelligence connaît, existe, il est ou existant en acte ou existant en puissance, mais il est. Tout être est intelligible. Comment se fait-il que je puis dire que l'un est plus que l'être? C'est parce que pour connaître parfaitement l'être, je cherche ce qui est premier. Or, ce qui est premier, je dis, c'est ce au-delà de quoi il n'y a rien. C'est comme ça, vous exprimez ce qui est premier, et vous l'exprimez négativement. Et quand vous cherchez une source, samedi, quand on était jeune, on faisait ça. Hein. C'est très amusant, du reste. Cherchez où est une source. Vous suivez la source. Puis tout d'un coup, la source n'est plus là. Parce que la source jaillit de l'intérieur, de la terre. Alors vous avez suivi. Puis à un moment donné, vous ne voyez plus rien. Alors vous revenez et vous redécouvrez la source. Et puis vous creusez et puis vous voyez en effet, elle jaillit de terre là. Oui, la source, ce au-delà de quoi il n'y a plus d'eau. C'est le principe. Ce au-delà de quoi il n'y a plus d'eau. ce au-delà de quoi il n'y a plus d'eau. C'est donc l'aspect négatif. Qu'est-ce que c'est que l'un, ce qui n'est pas divisé, ce qui est indivisible, indivisible. Donc, la négation exprime l'unité. Ce qui n'est pas divisible, là, ce qui est indivisible, ce au-delà de quoi je ne peux pas aller, ce qui est indivisible, puisque dans le néoplatonisme, le contenu de la pensée et la manière de penser ne font qu'un. L'être n'est parfaitement être que dans son principe. C'est vrai, l'être n'est parfaitement être que dans son principe, c'est-à-dire dans la substance et dans l'acte. Si ma manière de penser est vue avec le contenu de la pensée, ce au-delà de quoi je ne peux pas dépasser, ce qui est indivisible caractérise l'être premier. C'est donc là. Et donc l'un est au-delà de l'être. Mais je crois que c'est très important pour nous de saisir ça. Parce qu'on a toujours en nous un fond néo-platonicien ou platonicien. Parce que Platon regarde la manière d'exister des choses. C'est la participation. Et notre manière de connaître à cause de nos sensations. Notre manière de connaître première, c'est toujours le lien d'intelligence et des sensations. Le lien d'intelligence et de ce que nous touchons, de ce que nous voyons. Et donc, c'est toujours quelque chose de concret, notre manière de connaître. Et nous avons beaucoup de peine de dépasser cette manière de connaître et ce qui est le principe. Et très facilement, si nous ne faisons pas grande attention, nous identifions ce qui est connu et la manière de le connaître. Prenez l'exemple très simple en science, biologique. Vous découvrez des quantités de choses dans la réalité. Quand vous servez d'un microscope très poussé, vous découvrez ça grâce au microscope. Vous ne le découvrez pas directement. Alors, vous identifiez ce qui est connu et la manière de le connaître. C'est vrai. On devrait toujours dire, voilà ce que je vois à travers le microscope. Sans le microscope, je ne le vois pas. Ah, c'est curieux, ça. Alors, qu'est-ce que je saisis de la réalité au sens rigoureux? Il faut le préciser. Donc, il faut distinguer ce qui est saisi et la manière de le connaître. Et la plupart du temps, on ne fait aucune distinction entre les deux. Et ça, c'est le propre du néoplatonisme. C'est le propre d'une connaissance par mode de participation. On confond ce qui est atteint et la manière de l'atteindre. Alors que, de fait, si vous êtes un tout petit peu attentif, vous faites ça constamment en photographie, quoi. Vous saisissez sous un aspect particulier, belle personne. Vous savez, cet exemple qui a fait beaucoup crier et qui est merveilleux d'une certaine manière et affolant de l'autre. J'ai connu l'histoire de très près. Il y avait au quart de France, Pérulien, il y avait un cadre magnifique de Marie de l'Incarnation. Un buste magnifique de Marie de l'Incarnation. Un bon père Carme, qui est un peu psychanalyste, sous tendance psychologique et psychanalyste, avait écrit un livre, La Belle Acarie, pour montrer la belle Acarie, pour montrer ce qu'elle était avant d'entrer au Carmel et après le Carmel. C'est très bien la conversion de la belle Acarie carmélite. Alors, il n'avait pas de photo de la belle Acarie avant l'entrée. Il avait le buste entrée. Il fallait donc essayer de trouver à travers le buste ce qui était la belle Acarie avant. Très astucieuse. Mais cherche la source. Réfléchissons, cherche la source. Puisque bon, chacun d'entre nous, c'est avec l'âge, hein, ce qu'on était dans le berceau est présent maintenant. Intelligent. En regardant chacun, vous découvriez le berceau. Oh, je suis très très changé. Mais quand même, c'est forcé. On porte tout ce qu'on a vécu. Tout ce qu'on a vécu est présent dans un être vivant. Dans une œuvre d'art, c'est un petit peu différent. C'est la différence entre la morphée et l'eidos. Alors, il est venu demander à la mère prieure, est-ce que je puis photographier le buste? La mère prieure, avec sa simplicité de carmélite, dit, mais c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir un artiste, photographe, qui a pris 50 photos du buste. Le front, les yeux, le nez, la bouche. L'abstraction, la manière de connaître, ça peut changer pas mal de choses, hein, contre uniquement les yeux de quelqu'un, avec l'agrandissement des yeux, la belle Acarie, vous voyez, parce que ses yeux, c'est peut-être ce qu'elle a le moins changé, hein. Alors, quand la mère prieure a vu le livre, c'est elle-même. Voilà ce qu'il a fait de mon buste. J'ai trouvé ça admirable. Bon. Et on réfléchit là-dessus, hein, parce qu'il faut réfléchir sur ces données-là, c'est des questions très simples. Comment ça se fait? Mais tout simplement, la manière dont l'artiste regarde, il fait regarder ce qu'un autre ne voit pas. Jamais la mère prieure aurait pris 50 photos du buste. Ce buste vénérable qu'on ne doit surtout pas analyser. Lui, il a analysé. C'est ça l'analyse. C'est un point de vue. Et je prends un point de vue, j'interroge. Quels sont les yeux de la belle Acarie dans le buste de Mère Marie de l'Incarnation? Je veux découvrir les yeux. Je devenais ainsi de suite, vous voyez, tout le reste. C'est extraordinaire, c'est très intéressant, une chose comme ça, de voir la réaction de quelqu'un qui a une vénération, parce que la vénération, c'est l'affectivité. Et l'affectivité, dans ce cas-là, de plus fort, on vénère un buste. La fondatrice. On vénère ce buste. Lui, l'artiste, la vénération, affectivité, hein. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître et d'analyser et de redécouvrir quelque chose. Et derrière, il y avait le karma. Alors ce livre a paru, la belle Acarie, ça a fait un petit scandale à Paris, ça, à ce moment-là, ça s'est vite passé, mais ça a fait un petit scandale. Et je comprends. Moi, je connaissais très bien la mère prieure de Créteil. Et je connaissais un tout petit peu le Carme, de loin, parce que je n'avais pas tellement envie de le connaître de près. Alors, on assiste à ça, on essaie de réfléchir sur ces choses-là. C'est tellement intéressant de voir ça. Mais de voir l'aspect religieux qui regarde le monument. Surtout pas analyser. Quand on vénère quelqu'un, on n'analyse pas, on le vénère. On le salue, de loin ou de près. Et puis l'artiste ou le savant qui analyse. C'est pour ça qu'on dit toujours que la science est contre l'aspect religieux. Parce qu'on analyse. Et on voit des choses que l'aspect religieux voit le tout. Bon, alors, je prends ces exemples-là parce que c'est très important de saisir des erreurs aussi grandes que Platon. Il faut voir combien Aristote est sévère pour Platon. Il a manqué d'expérience. Ça, c'est le grand jugement. Il a manqué d'expérience. C'est-à-dire, il a fabulé. Il est parti dans son imagination à partir d'un fait. Alors, quelle est l'erreur? On met l'un avant l'être. Alors posez-vous la question. Ça, c'est une question qui est très importante. Il faut la résoudre. Comment se fait-il qu'un génie comme Platon peut mettre l'un avant l'être? Et comment tous ceux qui suivent Platon continuent de faire la même erreur? C'est parce que ils confondent, et ça c'est le jugement de saint Thomas sur le néoplatonisme, c'est très juste. Ils confondent le contenu de la connaissance et la manière dont on le connaît. Vous voyez, saint Thomas dit ça comme ça en passant. C'est tellement juste. C'est l'erreur fondamentale de tout le néoplatonisme jusque Hegel. On retrouve ça chez Descartes, on trouve ça chez Hegel et l'origine. Et c'est à partir de là que la participation l'emporte sur l'analyse des causes. Parce que la participation regarde le pos, le comment, la manière d'être. Comment on existe? Comment on est? C'est le comment, c'est pas le tiesti. Le tiesti, qu'est-ce que c'est? Comment de l'analyse? Bon, une fois que vous saisissez ça, vous comprenez que Aristote fait une distinction extrêmement pénétrante. Le principe de la propriété, c'est, au plan critique, justifier la connaissance scientifique. Dans ce cas-là, de tout à fait propre. On distingue, à la place du principe, dans les sciences modernes, c'est la loi. Quelle différence y a-t-il, la loi et le principe? C'est là où on saisit la différence entre la science dite aristotélicienne et la science moderne. Et à partir de la loi, on voit les applications. Ce sont les applications, les propriétés. La propriété, c'est toujours le retour à la réalité dans la lumière du principe. Alors je saisis la propriété. Je saisis que tout ce qui est premier dans l'ordre de l'être est un. L'un est donc acolyte de l'être. Acolyte, il faudrait dire, acolyte de ce qui est premier dans l'être. Vous avez donc l'un qui suit le point de vue de la substance. Et vous avez l'un qui suit le point de vue de l'acte. grands actes est un. Et comme il y a cinq grandes modalités de l'acte, il y a donc cinq grandes modalités de l'un. C'est très intéressant, tu vois ça, de voir ces modalités de l'un. Vous voyez donc comment l'un peut passer devant l'être. Deuxièmement, comprenez que la foi nous fait adhérer non pas au principe propre de Dieu, mais à l'exister de Dieu, la manière d'exister de Dieu. La foi adhère au comment de Dieu, pas au diesti de Dieu. Le diesti de Dieu, ce sera la vision béatifique. Je verrai Dieu tel qu'il est, c'est dit dans l'Écriture. Et nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Sur la terre, je ne vois pas Dieu tel qu'il est. Je le vois à travers ses effets. C'est à travers ses effets. Et si je regarde l'Écriture, je vois tous les noms de Dieu. C'est à travers les effets de Dieu. Dieu s'est révélé à tel endroit. Le Dieu des montagnes. Parce qu'il s'est révélé dans les sommets. Alors c'est le Dieu des montagnes. Et chaque fois qu'il y a un nom de Dieu, c'est toujours par rapport aux effets. Et je bloque, je ne distingue pas l'effet et la cause de l'effet, puisque j'appelle Dieu source de cet effet, du nom de l'effet. Ça, c'est la connaissance du comment. La foi ne me donne qu'une connaissance du comment. Elle ne me donne pas la connaissance du tiesti. Mais la théologie essaie de connaître le mieux possible ce comment en se servant des principes, ou plus exactement en se servant des notions critiques que j'ai saisies à partir des principes pour éclairer qu'est-ce que c'est que Dieu est Père. Qu'est-ce que c'est que la paternité? Dieu est bon. Qu'est-ce que c'est que la bonté? C'est la notion de bonté dont je me sers pour préciser. Alors, revenons à la métaphysique. La métaphysique, comme toute la philosophie, s'intéresse à l'homme. J'ai donc perpétuellement, dans ma métaphysique, dans ma philosophie, mais surtout en métaphysique, cette tension entre ceci est et je suis. Perpétuellement. Dès le point de départ de la métaphysique, je dis, je ne prends pas comme point de départ de la métaphysique je suis, mais ceci est. Pourquoi? Parce que ceci est me permet de regarder l'être dans toute sa pureté, tandis que le je suis ne le permet pas. Et vous voyez, là encore, je vois la différence avec le néoplatonisme. Si j'étais néoplatonicien, je dirais le je suis me donne une connaissance de l'être bien plus parfaite que ceci est. Ceci est commun. Ce petit caillou, il existe. Et l'être est très imparfait dans ceci. Tandis que je suis, ah, c'est l'être spirituel. C'est l'être spirituel. Donc l'être est bien plus parfait dans l'être spirituel que dans le petit caillou. Donc vous êtes un imbécile de commencer pour connaître l'être, de regarder ceci est et non pas je suis. Ça, c'est Descartes. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Donc, l'être est vu dans le je pense. Voyez bien, la manière de connaître l'être, c'est la pensée. Je ne peux pas connaître l'être sans la pensée. Mais l'être n'est pas la pensée. je suis néoplatonicien, je dis que c'est par la pensée que je connais le mieux l'être. D'où cette distinction Merleau-Ponty, l'être sauvage et l'être civilisé de Descartes. Cogito ergo sum, je connais l'être par la pensée. Et j'identifie la connaissance de l'être à la pensée, je suis. Tandis que si je suis aristotélicien, je dis je peux distinguer ma manière de connaître et ce que je connais. C'est ça le réalisme. Ce qui est et ma manière de l'atteindre. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est. D'où je pars du jugement d'existence. Ceci est dans toute sa pureté. Mais je sais que dans tout le mouvement de ma pensée, surtout en philosophie première, ceci est et je suis sont tout le temps, non pas en opposition dialectique, mais sont tout le temps présents. Ratio, modus. Ratio, l'être en tant qu'être. Modus, je suis. Et le mode le plus parfait pour moi, où je saisis l'exister, c'est je suis. Dans je suis, j'ai une connaissance tout à fait particulière de l'être. Quelle différence y a-t-il entre le je suis et ceci est ? C'est que le je suis est le mode le plus parfait de l'être que je peux connaître. Mais c'est le mode de l'être. Parce qu'il y a des quantités de réalité qui ne sont pas je suis. Tout simplement, mon ami, ce n'est pas je suis. Si je commence par le je suis, je ne connais plus mon ami. Je le connais qu'à travers moi. Donc je projette ma connaissance sur lui. Ce que nous faisons tout le temps. Alors, si durant toute la métaphysique, il y a ceci et je suis, et je ne peux pas les identifier, je serai néoplatonicien si je les identifiais. Je les distingue. Je peux donc regarder la propriété de ce qui est en tant qu'il est, et la propriété du je suis en tant que je suis. Alors, c'est à ce moment-là que je dis que la propriété de ce qui est en tant qu'il est, c'est l'un. Ce n'est pas la propriété propre du je suis. Le je suis, il est complexe, mais il est parfait. Il est complexe puisque dans mon je suis, il y a mon corps. Dans mon je suis, il y a ma pensée. Dans mon je suis, il y a mon amour. Dans mon je suis, il y a tout l'ordre que je mets dans mes activités. Mon je suis, c'est ma personne. Alors voyez, comment je peux dire que la propriété du je suis, c'est ma personne. Ce qu'il y a de plus concret en moi. Et c'est ma manière d'être un. Quelle est ma manière d'être un ? Voyez, mettez comme ça si vous voulez. Pour bien voir. En tant qu'être. Là. Et propriété. Si je veux pousser le plus loin possible le regard métaphysique et scientifiquement. Je sais que d'une certaine manière, je suis, c'est un mode particulier le plus parfait. Je peux donc essayer de comprendre la conséquence, donc, d'une certaine façon. La propriété n'est vraiment propriété que des principes. Là, c'est comme une propriété. Il faut dire comme, vous voyez. Quand Aristote dit que l'intellect agent est comme la lumière, comme. C'est comme la propriété. La propriété du je suis, c'est la personne. Parce que la personne rassemble tout ce qui est dans le je suis et l'exprime de la manière l'unité. L'unité du je suis, c'est la personne. Donc, je fais un parallélisme. L'un est à ce qui est, comme la personne est à ce que je suis. Donc, c'est comme la propriété. C'est vrai, la personne prend l'ensemble concrète du je suis. Je suis quand je pense, je suis quand j'aime, je suis. Bon. Et tout cela a une unité. Quelle est cette unité? C'est ma personne. La personne exprime l'unité du je suis. Donc, je peux faire ce raisonnement analogique. L'un du je suis, c'est la personne. L'un de ce qui est, c'est la propriété de ce qui est. Mais ma personne exprime l'unité de mon vécu de l'être dans toute sa diversité. C'est ça ma personne. Là, ça aide à comprendre mieux comment la personne implique l'unité, qu'elle est au niveau du pos, du comment. C'est mon comment. Et c'est cette unité dans ce comment qui implique beaucoup d'éléments. Et la personne exprime l'unité de ce comment. Puisque ma personne, elle est présente dans mon corps. Mon corps est personnel. C'est évident. Mes activités de pensée sont personnelles. Ma façon d'aimer est personnelle, tout est personnel. C'est l'unité à l'intérieur du je suis. Je crois que ça aide à comprendre, voyez. Il ne faut pas confondre, il ne faut surtout pas confondre le point de vue. Voyez, ici je suis en face de l'aspect science. Au fond, au sens strict, il n'y a pas de science de la personne, au sens strict, puisque la personne, c'est un pos. Voyez, c'est la manière dont l'être est pour moi. La manière dont l'être est pour moi. Et la manière dont l'être est pour moi implique cette unité qui est ma personne. Donc l'aspect scientifique, c'est là, et c'est là où il y a vraiment propriété. Tandis qu'ici, je suis en face du comment, de ce qui est le mode le plus parfait de ce qui est pour moi. Ce mode implique une certaine unité dans la complexité. Et cette unité, c'est ma personne. Il faut réfléchir là-dessus. Vous voyez, ce qui montre que la philosophie première s'achève par la découverte de l'un et du multiple, mais que la philosophie première s'achève d'une manière seconde dans la recherche de la personne. je suis ceci. Et je crois que l'erreur, voyez, de la métaphysique, de la scolastique, a été de séparer le « ceci est » et « je suis ». Séparer, c'est-à-dire d'exclure, disons, d'exclure. Il ne faut pas exclure « je suis ». Pourquoi ? Parce que la métaphysique, c'est la métaphysique de l'homme. Et c'est vrai, je ne fais pas la métaphysique de la vache. Si je fais la métaphysique, c'est pour mieux connaître l'homme. Et au terme de la métaphysique, j'atteins